gratuite dans la limite des places disponibles.
France Inter.
La voix est libre.
Dans une poignée de secondes, 15h04, tout de suite, là-bas, si j'y suis, avec Daniel Mermet.
La manif pour tous, sauf pour ceux qui ont un cerveau. Allez.
La connerie se porte bien. Des parents ont reçu des SMS leur annonçant que leurs enfants allaient être travestis en filles pour les garçons et en garçons pour les filles, qu'ils allaient recevoir des cours de masturbation, que des professeurs gays et lesbiennes allaient venir essayer de les convaincre de devenir gays et lesbiennes. Et donc du coup, ils ont décidé de ne pas les envoyer à l'école. Alors ça concerne une centaine d'établissements dans toute la France, avec de l'absentéisme de 10, 20, 30% et une petite pointe à 40%. Alors, où a lieu ce record? Eh bien, à Meaux, dans la ville de Jean-François Copé. Il n'y a pas de hasard.
Attention, ceci est un appel anonyme. Vincent Payon est démis de ses fonctions. C'est Marc Dutroux qui le remplace. La cage aux folles sera diffusée en boucle dans toutes les écoles. Les instituteurs porteront des porte-jartelles et les doudous des enfants à la maternelle seront remplacés par des godes michets.
Quand Sharon est mort, j'ai repris deux fois des pattes. Et quand Cavana est décédé, j'ai chialé comme un veau toute la journée. Salut François.
Alain Menck se lâche dans l'Express. Mitterrand nous avait débarrassé du communisme, Hollande nous débarrasse du socialisme. Tandis que Mario Soares avertit dans l'Humanité dimanche. L'austérité conduit l'Europe vers la dictature. Et oui, le rapprochement fascisme capital européen a toujours été la solution pour rembourser la dette et baisser les salaires. Régis de Nîmes.
Merci pour tous ces messages. Chers AMG, j'ai une question à vous poser. De quelle couleur le bonnet rouge ? Et bien la réponse, c'est noir et blanc comme le drapeau breton. Il y a quelques jours, on était à Locarn, vous vous souvenez ? L'Institut de Locarn, ce lobby de patrons bretons qui militent pour une Europe des régions. Et vous avez été nombreux à réagir à ce reportage de Charlotte, sur Charlotte Perry, sur ces étranges patrons, tout à fait dynamiques, tout à fait bien comme il faut, mais qui nous disent « notre problème, c'est la France ». Ah ! Bon, et qui nous traitent gentiment, d'ailleurs très courtoisement, de jacobinards. Nous voilà des jacobins, enfin nous les autres, qui n'ont pas la chance d'être bretons. Alors on est quand même un peu étonné par tout cela, même si quand même on a quelques notions de ce qu'est l'autonomisme breton. Ça fait bien longtemps qu'on le voit, ce drapeau breton partout, dans les manifs, dans les concerts, dans les stades, on voit ce drapeau. Et aujourd'hui, on va passer cette heure avec une auteure qui s'appelle Françoise Morvan. Alors, elle fait l'objet de polémiques hein, sur en Bretagne, hors de Bretagne, et elle a publié un livre qui s'appelle Le Monde comme si, où notamment elle raconte l'histoire de l'autonomisme breton et elle voit derrière cet institut de Locarn le risque d'une dérive autonomiste. Voilà, ça nous a donc intéressé d'aller la voir, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, une heure avec elle, avec cette histoire étonnante, méconnue hors de Bretagne, je le crains, de cet autonomisme breton. Une sale histoire à certains égards, puisque cet autonomisme breton s'est vautré dans la collaboration avec l'occupant durant la guerre, mais aussi l'histoire d'un mouvement culturel et politique très passionnant et très passionné surtout, et puis tout un aspect dans le souffle de la décolonisation des années 60 et 70. Bref, quelque chose de qui mérite vraiment qu'on se penche sur ce sujet pour répondre à la question de quelle couleur le bonnet rouge. Voilà notre sujet du jour. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Allô, de la part de Babette, écologiste libertaire, combattante depuis 40 ans. Mes pensées vont à Cavana, qui va nous manquer, de Charlie Hebdo. Quand on voit l'ignominie de ce qui se passe en France, avec des mayonnaises, ou des gens de Dieudonné, des rouges, des bruns, des l'extrême droite musulmane, l'extrême droite catholique, en plus avec une dénommée Farida Belghoul, qui participait à la marche des beurs, il y a 30 ans, qui se retrouve en connivence avec l'extrême droite. Quelle mayonnaise infâme! Mais quand est-ce qu'on va parler des vrais sujets? L'écologie, l'humanisme, l'aide aux TPE, aux PME, aux agriculteurs bio, je comprends plus ce pays. Salut, Mermet.
Cavana, la moustache. Elle taillait tous les matins sa pilosité luxuriante et je tenais, balai en main, le rôle ingrat de la servante. Un jour, par la fenêtre ouverte, s'est engouffré le sirocco. Je balayais en pure perte ce qu'on dispersait les rameaux. J'étais triste, découragé, le moral au bord des chaussures. Quand le facteur est arrivé, « Bonjour, faudrait une signature !» Ma belle, que rien ne démonte, elle fut élue Miss Gros derrière. Sans trembler, poursuivit sa tonte sous le regard du fonctionnaire. Le sirocco, c'est bien connu, a le gag pour seule raison d'être. Il envoya les poils du cul à la figure de l'homme de lettres. On a de l'humour à la poste, malgré la rudesse de la tâche. Le préposé, belle riposte, s'en confectionna une moustache. À la Brassens, à la Dali, François Cavana en option, nous jouâmes jusqu'à midi à lui décorer le menton. Il repartit en emportant un recommandé détestable, mais nous laissa, c'est plus charmant, un souvenir impérissable. C'était le poète du dimanche. Salut.
Naru Naguen. Brisa Tepkin. Ni rouge, ni blanc, breton seulement.
Tous les panneaux sont écrits en bilingue, en fait.
Rue Henri Rivoal, c'est en fait l'un de ces jeunes gens qui ont été assassinés au cours de la rafle du 11 juillet. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on met ça en breton surunifié. C'est un résistant.
Voici la leucémie bretonne.
Une Bretagne ancestrale, avec ses bons prêtres et ses nobles dévoués au bien commun. Une Bretagne voulue par Dieu. Une Bretagne pure, avec un breton fait de mots celtes, sans mots français. Une langue épurée. Des chansons refabriquées pour être dignes de la nation ancestrale issue de la Celtie. Et là, on a les origines du nationalisme breton.
Voici la leucémie bretonne et le mensonge qui nous assomme.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Charlotte Perry. Ni rouge, ni blanc. Breton seul.
Flight number 2, arriving from New York.
Alors là, je me trouve à Rostrenin, une petite commune de 3500 habitants, dans les Côtes d'Armor, en centre-Bretagne, à une vingtaine de kilomètres de carré. Et c'est là qu'est née et que vit, en tout cas une partie de l'année, Françoise Morvan. Françoise Morvan, elle est essayiste. C'est la plus jeune agrégée de France. Elle a obtenu son diplôme d'État à 22 ans. Et elle a également publié « Le monde comme si », un essai sur les dérives du mouvement identitaire breton. Et pour cela, elle est littéralement haïe par toute la frange radicale du mouvement breton.
Bonjour.
Bonjour. Je suis en pleine action, je débroussaille.
C'est vraiment une belle maison.
C'était la maison qui a été construite par mon arrière-grand-oncle et où je suis née. Et j'ai pris ma maison natale en charge. J'ai l'impression que la situation est inversée. Ce n'est pas elle qui me sert, c'est moi qui la sers. Et c'est très difficile. Rostrenin, de nos jours, c'est très difficile.
Pourquoi ?
C'est une ville sinistrée. Je pense que dans la rue centrale, il n'y a plus un seul commerce. Tout est à vendre. Il y a l'Intermarché à l'endroit où il y avait autrefois les lavoirs et des prairies absolument magnifiques. L'Intermarché, le Bricomarché. Alors de l'autre côté, il y a le Centre Leclerc. De l'autre côté, il y a le Lidl. Et nous avons tout autour, à la place des champs, avec le paysage bocager particulier à la Bretagne, nous avons de vastes étendues entre barbelés. C'est le résultat du remembrement. Nous sommes dans une espèce de zone industrielle banlieusarde, en fait. Mais avec un discours non seulement optimiste, mais euphorique. C'est exactement le mot d'ordre de Troadec.
Christian Troadec, le maire de Carhaix.
Donc le mot de Troadec, c'est une Bretagne belle, riche et prospère, avec en même temps une espèce de satisfaction proliférante. Nous sommes bretons, nous ne sommes pas français, on bretonise tout, donc on est dans un environnement sinistré, mais euphorique.
Si on regarde de loin, les bonnets rouges, comme ça, quand la nuit descend, on dirait des braises. Gueulant, je ne vais pas faire le jeu de mots, braises et braises. Des braises qui se rallument, et sur lesquelles souffle un vent, comme il y en a souvent sur les côtes bretonnes. Il y en a eu là, très violent. Puis aussi un vent de colère qui a rallumé, ranimé des braises anciennes, les braises de l'histoire, de l'identité bretonne, de l'autonomisme, de la nation, de l'esprit, de la culture bretonne. C'est une histoire récente. Vous vous souvenez de Shlomo Sand, l'historien israélien qui nous racontait comment le peuple juif fut inventé? Oh non, mais attendez, ça fait des millénaires. Oui, bien sûr, ça fait des millénaires. Mais il y a un moment où les historiens apparaissent et racontent l'histoire des peuples. Et c'est très récent, c'est une histoire très récente qui arrive au 18e et au 19e, surtout. Alors là, on y va. Là, on y va, on raconte, je ne dis pas qu'on invente, surtout pas, mais enfin, on crée des récits, on crée des mythes, on crée des clichés, on crée quelque chose qui correspond aux attentes du temps. Et le 19e, c'était les États-nations, c'était la race, c'était toutes ces choses qui ont conduit à ces nationalismes, à ces sentiments très forts d'appartenir à une terre, d'appartenir à un sang, d'appartenir aussi à une culture, à une langue, à quelque chose de très fort. Ça, c'est sympathique par moment quand on fait que passer, mais il y a des effets terrifiants. Des effets terrifiants. Il y a effectivement les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, la chanson de Brassens. Il y a des nationalismes terribles qui excluent, qui cherchent la pureté ethnique. Souvenez-vous, en tous les cas, moi je me souviens bien de l'éclatement de la Yougoslavie. Mais il y a aussi une force indéniable, une légitimité à ce que les peuples disposent de leur histoire. On a soutenu les décolonisations, on a été très émus, et on a soutenu aussi l'Irlande face à la domination anglaise. Donc il y a quelque chose là qui se contredit. Il y a quelque chose qui se contredit et qui est passionnant, au moins à cause de ça. Et puis il y a des chiffres comme celui-là. 1914, 1918, plus de la moitié des hommes bretons entre 20 et 40 ans sont morts. Je répète, plus de la moitié des hommes bretons entre 20 et 40 ans sont morts durant la Première Guerre mondiale. Ça laisse des traces très très profondes, des ressentiments extrêmement profonds et des replis qui ne le sont pas moins et qui peuvent, on va le découvrir pour certains d'entre vous, qui peuvent conduire au pire, mais pas toujours, pas forcément, parce que ça peut se retourner. Alors voilà, les bonnets rouges, bon, c'est loin, c'est là-bas, c'est la Bretagne, ces drapeaux auxquels nous sommes habitués, un folklore, somme toute, des musiques formidables. Voilà, nous, on ne fait que passer, on voit ça de loin, je parle de nous, les Jacobinards, les Parisiens. Ça vaut le coup quand même de rentrer un peu plus dans cette histoire qui a des analogies avec d'autres, avec l'histoire basque, avec l'histoire corse, avec d'autres histoires de la France sous ce silence, sous l'aspect un peu lisse de l'étang français. Il y a beaucoup de choses qui bougent, qui attendent des monstres et des merveilles. C'est jusqu'à 16h ou presque, c'est là-bas si j'y suis.
Un auteur atypique, et ça explique un petit peu pourquoi j'ai fait des trucs si différents. Par exemple, éditer un poète anarchiste mort dans un commissariat de police, Armand Robin, de Rostrenin. Ensuite, me lancer dans l'édition d'un... Enfin, me poser des questions sur la manière dont le folklore était instrumentalisé par les folkloristes. Et donc, ça m'a amené à cette espèce de saga de l'affaire Luzel, puisque je suis tombée sur le fond de contes, de chansons et de théâtre populaire breton le plus important et qui était inédit, je ne comprenais pas pourquoi. Et donc, ayant le sens du dévouement, je me suis dit, je vais faire une édition des textes de ce François-Marie Luzel, qui vivait au XIXe siècle.
François-Marie Luzel, Fanch en Nuel en breton, jusqu'à présent ce n'était pas un best-seller, mais ce n'est pas étonnant, les 300 et quelques contes qu'il a recueillis à travers la Basse-Bretagne vers 1870 n'avaient guère été publiés jusqu'à ces dernières années, ni en breton ni en français.
France 3 Atlantique, 26 février 1995.
C'est pourtant l'un des plus grands collecteurs de contes et de chants populaires en Europe au siècle dernier, et on a souvent comparé son travail à celui de Grimm en Allemagne. Mais Luzel ne réussit pas aujourd'hui plus qu'hier à faire l'unanimité. Le 100e anniversaire sera sans doute marqué par les divisions et les polémiques entre spécialistes. On parle même de procès.
Mais mon directeur de thèse, qui dirigeait le département de statistique de l'université de Rennes, et qui s'appelait Pierre Denis, mais il s'était rebaptisé Père Dénèse, quand il m'a imposé de réécrire les carnets de Luzel en orthographe surunifiée, j'ai simplement pensé qu'il était sénile, donc je lui ai dit non, parce que un chercheur ne falsifie pas un texte. Et donc je me suis retrouvée avec un procès en diffamation pour avoir voulu finalement respecter l'orthographe de Luzel, totalement surréaliste. Et là, j'ai commencé à comprendre ce que c'était que le mouvement nationaliste breton. Soudain, les écailles me sont tombées des yeux. Et je commençais à me poser des questions sur, précisément, Repart-Sémon, quand on m'a demandé des dommages et intérêts, parce que j'avais expliqué que cette orthographe, c'était pour eux un problème central, étant donné qu'elle a été fixée en 1941 sur ordre des Allemands, qui étaient associés aux militants nationalistes bretons. Donc le fait d'expliquer historiquement pourquoi on se trouve devant les tribunaux à cause d'une affaire d'orthographe, il me demande des dommages et intérêts supplémentaires. Parce que j'avais expliqué que, étant l'héritier spirituel de Repart-Sémon, Monsieur Denis ne pouvait pas supporter que je respecte l'orthographe de Luzel. Parce que Repart-Sémon avait fixé l'orthographe surunifiée du breton, qui était le dogme absolu du mouvement nationaliste. Donc le résultat, c'est qu'il me fait ce procès, il le perd. Et entre-temps, moi, je me demande ce qu'a pu écrire Ropar Semon, effectivement, puisqu'on considère que héritier spirituel de Ropar Semon signifie idéologue nazi, je vais donc en savoir plus. Et là, je commence à lire L'Heure bretonne, Arvor, le journal de Ropar Semon, Sous l'occupation, Steren et d'autres revues. Et de fait, c'est un idéologue, pas nazi, mais pro-nazi, clairement, et qui écrit des textes antisémites. Et du coup, je me dis, mais les écoles d'Yvonne ont donné le nom de Ropar Semon à leur collège. Parce que je voudrais rappeler quand même que j'avais fondé une école d'Yvonne à Guingamp. Je donnais de l'argent pour d'Yvonne et j'ai fondé cette école. Donc c'est là que j'ai commencé à informer le MRAP ou la Ligue des droits de l'homme ou des associations en disant, mais Ropar Semon, ce n'est pas du tout le pauvre militant qu'on va expédier en Irlande et qui va finir ses jours à Dublin parce que les Jacobins l'ont chassé. C'est quelqu'un qui écrivait des textes antisémites et qui était pour l'Europe nouvelle dans le cadre du Reich. C'est d'autre part quelqu'un qui a écrit que sous l'occupation, la Bretagne avait enfin connu des jours de liberté. Donc le fait qu'un collège porte le nom de Ropar Semon, à partir du moment où moi j'étais devenue consciente de ce qu'il avait écrit et de la démarche dans laquelle il avait entraîné le mouvement breton, et surtout des gens qui l'entouraient, parce qu'il n'était pas tout seul, tous les militants nationalistes engagés dans le combat de Brezhatau étaient forcément alliés aux nazis qui les soutenaient. Sur une même base idéologique, on est celte, on n'est pas français.
Le mensuel Bretagne-Île-de-France publie dans son numéro de mai un article concernant l'écrivain et linguiste bretonnant Ropar Semon.
France 3.
Son nom se trouve sur un document des archives de Saint-Brieuc qui serait, selon deux historiens de la Résistance, une liste des agents de la Gestapo en Bretagne.
17 avril 2000.
Ropar Semon est connu par les bretonnants pour ses ouvrages de littérature, ses manuels d'apprentissage de la langue et ses dictionnaires. Toute sa vie, il a placé son combat pour la langue bretonne avant toute chose. Seulement, pendant la guerre, il a accepté la direction de la radio en langue bretonne, radio financée par les services de propagande allemand. Quel qu'il en soit, le mouvement culturel breton a pris le taureau par les cornes. Le collège d'Iwan ne s'appelle plus Ropar Semon.
C'est un acte très courageux. L'essentiel, c'est de nous dégager de ce passé qui pèse très lourd et qui a porté préjudice à la culture bretonne.
Alors, il y a quatre jardins autour de la maison.
Oui. Ici, c'est le jardin de derrière. Là-haut, il y a le jardin d'en haut. Après, il y a le jardin d'en bas et le jardin de devant.
Ça fait que la maison est entourée de jardins.
Oui. Quand on était enfant, c'était un paradis. Et les cerisiers, il y a un lavoir, il y a une fontaine.
Elle est où la fontaine?
Vous voulez la voir?
Oui.
Oh, il y a une accalmie. C'est miraculeux.
Descend des marches, là, on rentre dans un jardin en contrebas.
En fait, c'est un endroit assez mystérieux. Il y a comme quelque chose de très étrange, c'est très ancien. Et depuis que je suis enfant, j'ai toujours prouvé un sentiment de crainte. Avec les grands arbres tout autour. Et au-dessus, vous avez la vieille fontaine qui doit dater du XVIe siècle. Ça, c'était l'atelier. Mon grand-père est mort très jeune et ma grand-mère est restée veuve. Et sous l'occupation, quand les prisonniers sont arrivés, la mairie de Rostrena a réquisitionné l'atelier et a construit tout autour ses vitres, ses portes, et l'a recouvert. Et on a installé des chalits, et il devait y avoir une centaine de prisonniers, peut-être, qui étaient là. Et ensuite, quand les Allemands sont arrivés, ils ont envoyé les prisonniers à part, à côté, et ce sont les Allemands qui se sont installés là.
Dans l'atelier, là?
Oui, ils étaient là, ils venaient prendre l'eau, la voir. Ben, moi, j'écris un livre sur cette époque. J'ai fait l'histoire de la rafle du 11 juillet 44, au cours de laquelle les camarades de mon père ont été assassinés, après avoir été torturés par les miliciens bretons. Bon, il m'a semblé qu'en travaillant un événement historique, un petit événement historique, et en le travaillant en étoile, on arrivait à faire l'histoire de manière plus intéressante que en partant des récits faits par les historiens, qui d'ailleurs avaient totalement dissimulé les responsabilités des miliciens bretons et les passaient totalement sous silence.
Parce que les nationalistes bretons, eux, étaient du côté des nazis.
Oui, le mouvement breton nationaliste dans son entier a collaboré. En 2010, j'ai publié donc un essai, « Miliciens contre maquisards », et je suis contente de l'avoir fait, puisque sinon, les résistants de Rostrenin ne seraient qu'une bande de criminels. Et toute la résistance n'aurait été qu'un combat d'arrière-garde mené par Moscou et en vue d'instaurer une tyrannie en Bretagne. C'est la théorie nationaliste qui considère que les FTP communistes étaient tous des criminels. Et il y avait bien sûr les bons nationalistes bretons qui voulaient poursuivre leur combat, mais pendant ce temps-là, la résistance ne faisait qu'assassiner de braves gens. C'est très grave. On est dans la réécriture de l'histoire actuellement. Et ça, c'est le fin mot de la réécriture de l'histoire.
C'est vrai qu'il est très mystérieux, ce jardin.
La Légion des volontaires français contre le bolchevisme s'est constituée. Sa première réunion a lieu au Vélodrome d'Hiver. Monsieur Deloncle prend la parole.
Actualité mondiale.
J'envoie à Vichy.
25 juillet 1941.
Les généraux de division Lavigne, Delvigne et Hassler. Afin d'une part, qu'ils se mettent en contact avec le maréchal et son gouvernement. Et d'autre part, qu'ils organisent le recrutement dans la zone non occupée.
L'exposé de Marcel Déa.
Le salut de la France ne devait être confié qu'à l'effort privé, à l'effort volontaire des légionnaires. Je suis sûr que cela, vous l'accomplirez. Vous l'accomplirez ensemble jusqu'au bout et que la France sera sauvée.
Des bureaux d'engagement ont été ouverts aussi bien en zone occupée qu'en zone non occupée. Le bolchevisme battu fera l'Europe unie.
Oui, c'était l'horizon pour ces légionnaires, cette légion des volontaires contre le bolchevisme. Il s'agissait d'une collaboration armée, militaire, avec l'occupant, avec les nazis, et pour la construction d'une Europe. C'était l'un des horizons des nazis, cette Europe. Et ces autonomistes bretons qui rêvaient de l'indépendance de leur pays, eh bien, se sont alliés, se sont soumis à cet occupant nazi et ont s'est allé jusqu'à des milices qui ont combattu les maquisards et la résistance bretonne, parce qu'il y avait bien sûr des maquisards et une résistance bretonne. On ignore ces pages terribles, on ignore bien souvent, on a voulu chasser, vous avez compris, révisionnisme, négationnisme. C'est pas forcément toujours à l'échelle nationale que ça se produit, ça peut se produire aussi localement. On a voulu oublier cet aspect de l'histoire. Et aujourd'hui, on a des relents, des remugles d'extrême droite qui remontent à la surface, un antisémitisme virulent qui s'exprime ça et là. Il est quand même intéressant de revenir sur cette histoire, sur cette mémoire et sur ce passé, avec Françoise Morvan en l'occurrence.
Brezetaos,
c'est Bretagne toujours. Créé en 1919 par un étudiant en architecture qui s'appelle Morvan Marchal, qui est un personnage très important puisque c'est lui qui a fabriqué le drapeau qu'on voit partout là.
Le guenadu, le drapeau noir et blanc.
Oui, c'est ça. Symbole complètement réactionnaire. Hein. Il prend les hermines, qui sont le symbole de la Bretagne autonome, donc la Bretagne des ducs, avant la Révolution française. Et à partir de l'hermine, sur le modèle du drapeau américain, il fait un drapeau noir et blanc, qui est le drapeau nationaliste breton. Comme ils vont fabriquer une langue sans mots français, donc le breton de Robert Semon, comme ils vont fabriquer un art national avec les Seixbreurs. Les Seixbreurs, c'est les sept frères, c'est un groupe de plasticiens et de peintres qui ont décidé de faire un art national breton. Toujours dans le cadre de Brezetao. C'est-à-dire, on fabrique une langue, ça c'est Robert Semon, on fabrique un art, ça c'est René-Yves Creston et les 16 Boeurs, on s'arrange pour créer une culture qui soit uniquement celte avec une musique purement celtique, ça c'est l'invention du bagad, c'était des groupes qui défilaient, des groupes de jeunes, ou sous l'occupation, les brigades de combat. Le bagad, c'est devenu l'expression même de la Bretagne, mais non, c'est une création de ce même groupe et dans ces mêmes années.
Du Brézatao.
De Brézatao, oui. Brézatao, c'est 1919, un étudiant en architecture qui parle pas un mot de breton. Olivier Mordrel, un autre étudiant en architecture, fils de général, qui parle pas un mot de breton. Francis de Beauvais, un aide préparateur en pharmacie, qui habite à Rennes, qui a, je sais plus, 15 ou 16 ans. Il parle pas un mot de breton non plus. Soudain, ils ont découvert ensemble qu'ils n'étaient pas français. On leur avait caché ça. Ils étaient bretons, donc ils se mettent à apprendre le breton. Le père de Mona Ozou, c'est ça, Yann Sawyer. Soudain, c'est un instituteur, il est frappé de ce que j'ai appelé le coup de braise. Une illumination qui peut se produire n'importe où. Célestin Lainé, le fondateur de la milice bretonne nationaliste sous uniforme SS, dite Bézène Perrotte, formation Perrotte. Il fait lui-même le récit de son coup de braise. Il est tout jeune, dans sa famille, à Brest, et soudain, par manière de plaisanterie, au moment du café, l'un dit « Ah, mais nous, en fait, on est bretons, on n'est pas français, hein ?» Et tout le monde s'amuse. Ça frappe l'esprit de ce jeune Célestin. Il s'appelle Célestin Lainé. Et de ce moment-là, jusqu'à la fin de sa vie en exil en Irlande, une seule idée l'occupe, libérer la Bretagne de la France. Précisément les pauvres camarades de mon père, là, notamment Albert Torqueo. C'était un jeune communiste qui faisait pour les associations laïques le sport dans l'atelier en bas ici. On va le retrouver dans un bas-fond le 16 juillet 1944 avec les ongles arrachés et un œil arraché à la cuillère et abattu d'un coup de revolver dans la nuque avec cet autre jeune qui ont été pris. Et ça, c'est Célestin Lainé. Ce sont ces miliciens. Albert Torqueo était aussi breton que Célestin Lainé. Les Bretons qui ont été torturés par ces gens-là l'étaient au nom de la Bretagne qui a été fantasmée un jour par un garçon qui entendait une plaisanterie au moment du café et qui depuis a développé une stratégie avec le groupe Brézatao, avec le groupe terroriste Guanadu qui a fait sauter la statue, ce qu'ils appellent la statue de la honte, la statue qui montre Anne de Bretagne à genoux devant le roi de France. Donc les attentats commencent avec Célestin Lainé, et Célestin Lainé engage peu à peu de jeunes gens dans son service spécial et forme un groupe de combat. Puis ensuite il fait un débarquement d'armes allemandes pour recommencer à organiser une armée purement bretonne pour lutter contre la France. Finalement, il va être condamné à mort, mais comme tous les autres, il se réfugie en Irlande avec la filière des faux passeports. Et le résultat de tout ça, c'est que le combat breton s'est poursuivi avec ces gens depuis l'Irlande et que la culture défendue par les nationalistes et le règne du drapeau et cette espèce d'imposition d'un breton surunifié, il s'inscrit dans quelque chose qui a commencé en 1919 avec ce groupe de jeunes gens, et il y en avait peut-être une douzaine.
La demande du maréchal Göring, son neveu.
Les films de propagande se sont plu à mêler les coiffes des femmes bretonnes aux uniformes de l'occupant allemand.
France 3.
Un uniforme qu'une poignée d'ultranationalistes finira par endosser.
5 mai 2000.
Yann Fouéret, lui, fidèle à la doctrine de l'activisme breton, se refuse à faire couler le sang. Mais en 1941, il fonde un journal, La Bretagne. Il veut en faire la tribune des aspirations bretonnes dans le cadre d'un régime qui flatte le provincialisme.
Et si on vous dit que vous avez été pétainiste?
Ah ben je ne le dénie pas, j'ai pas été pétiniste si vous voulez, j'ai été pour le gouvernement français qui avait fait une ouverture vers les revendications bretonnes traditionnelles.
Le mouvement nationaliste breton est né en 1919.
Le mouvement nationaliste breton est né plus tôt. Il est né au 19e siècle avec Ersart de la Villemarqué, notamment tout un groupe de jeunes légitimistes absolument opposé à la Révolution française, à la présence des instituteurs, à l'esprit des Lumières, et qui voulait défendre une Bretagne ancestrale avec ses bons prêtres et ses nobles dévoués au bien commun, une Bretagne voulue par Dieu, dans une Europe elle-même constituée de peuples tels que voulus par Dieu, et œuvrant ensuite pour une Bretagne pure, avec un breton fait de mots celtes, sans mots français, une langue épurée, des chansons refabriquées pour être dignes de la nation ancestrale issue de la Celtie. Et là, on a les origines du nationalisme breton, mais la naissance du nationalisme breton tel qu'on le connaît et la fabrication d'une identité bretonne à partir d'une vision politique visant à rendre la nation bretonne indépendante de la France républicaine, ça c'est né en 1919 avec ce qui s'appelait Breizhatau, c'est-à-dire Bretagne toujours, qui ensuite s'est très peu développé, mais en 1923 a créé le parti autonomiste breton avec l'aide de l'Allemagne, qui encourageait évidemment l'irrédentisme, principalement en France, puisque tout ce qui affaiblissait la France était bon pour l'Allemagne. Donc le mouvement alsacien a été encouragé, puis le mouvement breton et corse et flamand et ainsi de suite. Et l'Allemagne a créé ce qu'elle appelait le Congrès des nationalités, et le mouvement nationaliste breton infime a pu peu à peu avoir de l'argent et se développer. À la libération, le mouvement breton a été complètement discrédité. Il n'empêche que les nationalistes les plus compromis ont organisé une filière de faux passeports qui leur a permis de se retrouver au Pays de Galles ou en Irlande, puis après les amnisties, de pouvoir revenir en Bretagne, refaire partir le mouvement, mais bien entendu sur des bases un petit peu différente de ce qui s'était organisé dans l'entre-deux-guerres. Le combat se poursuit sur, évidemment, la défense de la langue, pas de la langue populaire, surtout pas, mais du breton surunifié, mis au point par Robert Sémon et par le groupe des nationalistes dans l'entre-deux-guerres. Donc un breton qui élimine la prononciation des dialectes et qui se caractérise par l'absence de mots français et le recours à des mots gallois pour compléter, ou d'autres mots celtiques. Donc la défense de la langue, considérée de manière mais souvent vraiment fétichiste comme l'atout majeur, alors même que la langue, à partir de 1946, était de moins en moins parlée. Le breton qui survivra sera le breton qui est enseigné dans les écoles et qui est une nouvelle langue, une langue fabriquée et incompréhensible aux locuteurs natifs.
La voix vibrante de Gilles Servin lui rappelle ses époques, les années, la fin des années 60 et 70, avec Alan Stivell qui réveille et qui renvoie, qui relance la musique, ou qui la crée d'ailleurs en partie. Cette musique qui allait se répandre partout avec force et avec talent. Et ces années aussi, des mouvements nationalistes bretons qui seront tout à fait, on peut dire, révolutionnaires, progressistes aussi. Il y a eu un parti communiste breton, mao-guevariste, on se souvient du FLB, de l'UDB, tout le travail sur l'autogestion. Donc il y a dans ce mouvement autonomiste ce que décrit Françoise Morvan, mais il y a aussi d'autres aspects assez contradictoires. Et aujourd'hui, cet institut de Locarne, puissant organisation financée, dirigée par des patrons bretons, qui dit nous, notre problème, c'est la France.
Quel temps magnifique! Il y a même du soleil.
Voilà, on a quitté votre maison et on part à la recherche d'un restaurant ouvert un dimanche à Rostrenin. C'est
une aventure.
Et tous les panneaux sont écrits en bilingue, en fait.
Rue Henri Rivoal, c'est en fait l'un de ces jeunes gens qui ont été assassinés au cours de la rafle du 11 juillet. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on met ça en breton sur une ichier. C'est un résistant. Il n'aurait jamais imaginé qu'on puisse considérer qu'il fallait parler de lui dans une langue inventée comme ça. Par précisément les nationalistes bretons qu'ils combattaient, c'est totalement invraisemblable. Mais de toute façon, à Rostrenen, comme dans toute la Bretagne, tout le cadastre est refabriqué. Et donc, les maires de certaines communes du Morbihan gallo, du Morbihan de Haute-Bretagne, où l'on n'a jamais parlé breton, ont découvert un jour qu'on leur mettait toute la signalétique de leur ville en breton. Et ils ont protesté, ils ont même mis du scotch noir pour masquer les noms. Ça n'a servi à rien. Alors, Rostrenen, il y a eu une grande polémique parce que Rostrenen, en breton, on prononce Rostren. Et donc, toute la signalétique avait été mise avec Rostrenen et Rostren. Mais les nationalistes ont jugé que c'était pas digne, c'était du breton populaire. Donc, on a refait toute la signalétique pour mettre Rostrenen, comme on ne le prononce pas.
Ouh, il se remet à pleuvoir.
Ça, c'est normal.
Tout est fermé.
C'est fermé ?
Ouais.
Là, franchement, je vois pas où est-ce qu'on peut rentrer.
On vient de traverser le centre de Rostrenen et de droite et de gauche, toutes les boutiques étaient fermées à vendre, à vendre, à vendre et à vendre.
Le bar-restaurant à vendre, la pharmacie à vendre, la boucherie. Foufou, lingerie féminine, à vendre. Le café de l'Omic, avec autrefois une grande annonce, café du Lion d'Or. À côté, c'était Loirne, le sabotier, qui venait raconter des histoires. Et en plein milieu d'une conversation, tout le monde se mettait à danser. J'ai enregistré... toutes ces chansons, tous ces contes-là. C'est là que j'ai appris à danser aussi, dans cette salle, où le mardi, il y avait tous les gens de la campagne qui venaient. Alors là, on n'entendait pas un mot de français. C'était très gai, c'était complètement surréaliste aussi. C'est mon idée de l'usage, c'est venu de là, en fait. Le folkloriste dont j'ai fait l'édition et qui m'a valu tous les problèmes avec les nationalistes.
Et là, on arrive devant votre maison.
Le sucre est là, la cuillère est arrivée.
Et vous, vos problèmes sont venus du fait que quand vous avez voulu traduire les contes réunis par Luzel, le folkloriste, qu'est-ce qui s'est passé ?
Moi, je tombe sur un fond de folklore, enfin, pas seulement le conte, la chanson, le théâtre populaire. Je me dis, c'est quand même extraordinaire. On a quelqu'un qui part à pied dans la campagne, qui photographie ses mendiants et en même temps qui fait des carnets de route qu'il tenait quand il faisait une séance dans une ferme. Il prenait un petit carnet et au crayon, il notait le déroulé, le schéma du conte. Surtout qu'on a l'impression qu'on est là en 1868, dans la campagne, un jour de Noël, et il y a Marguerite Philippe, la plus grande conteuse de tous les temps, qui est une mendiante infirme, qui vient et qui parle, et on entend, il y a des tournures Léonard, elle fait des fautes de mutation, c'est extraordinaire, il n'y a pas de magnétophone, il y a simplement Luzel qui est là, et qui écoute cette mendiante. Donc, on fait une édition très soigneuse, très précise, de ces carnets, qui se calque exactement sur la page en breton qu'on transcrit. Il faut de la patience, faire une loupe. C'était ça mon idée. Je voulais juste les transcrire. Ça, c'est la vraie culture bretonne. Ça, c'est, on s'y attendait pas du tout. Et là, on est dans la vraie vie, en plus dans la poésie. Alors, voilà ce que je veux faire. Là, pour un militant nationaliste, c'est l'hérésie totale, l'hérésie à tous les niveaux, sur tous les sujets. C'est ce qu'il m'a dit. L'orthographe de Luzel, on ne peut pas mettre ça sous les yeux des enfants. Il fallait mettre ça dans l'orthographe nationale, bretonne. Il a fait son édition. On a l'édition de Père Dénez, des carnets de Luzel. Alors, complètement standardisé, le lexique est normalisé. Quand la mendiante était contente de mettre un mot français parce que c'était prestigieux, alors là, ils vous mettent un mot d'origine galloise. C'est le monde comme si, ce que j'ai appelé le monde comme si. On va faire comme si Luzel avait, en face de sa mendiante, recueilli des contes en breton sur unifié. C'est merveilleux, la nation bretonne existe de tout temps. Donc là, on en a bien la preuve. Et tout est fait sur le même modèle.
Au départ, le breton, pour la plupart des gens, a été une langue orale.
Bigouden TV, 12 janvier 2013.
Mais il a fallu, à un moment donné, être capable de mettre à l'écrit ces oraux différents qu'avaient les gens. Il y avait les gens qui parlaient plutôt le breton du Trégor, le breton du Léon. Il y avait les gens d'ici qui parlaient le breton de Cornouailles. Donc à un moment donné, pour qu'on puisse se lire les uns les autres, il a fallu qu'on invente une écriture commune. Il y a eu après un groupe de bretonnants, et notamment Ropar Semon, qui ont mis au point une écriture sur-unifiée et qui a retenu donc cette écriture comme Blaves avec un H et Mat avec un T.
Vous, ce que vous dénoncez dans la mise en avant de la culture bretonne aujourd'hui, c'est le décor en toc, c'est le côté faux de tout ça.
Oui, ils sont en train de construire un décor de théâtre. Ce qui m'intéresse dans la culture, c'est l'imprévisible. Ceux qui portent la culture nationaliste bretonne, c'est la volonté d'utiliser la moindre chose pour le mettre au service de la nation future. C'est pour ça que tout ce qu'ils font, c'est complètement inintéressant, puisque c'est instrumentalisé, c'est orienté d'avance vers un but. Donc ça n'a plus d'existence pour soi. Bon, que les nationalistes dans l'entre-deux-guerres aient fabriqué une espèce de business celtique, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont créé un art, mais que les politiques s'engagent tous dans cette voie, et avec les plus gros industriels de Bretagne, qui en l'occurrence sont aussi parmi les plus gros industriels de France, là je pense qu'il y a quand même le devoir de protester, d'informer, d'autant que ce qu'ils produisent, c'est quand même d'une insigne laideur. Ah oui, entre la Blanche Hermine et les paroles des chansons de Stivell, et tout le monde est engagé dans une espèce de machin moche, qui par contre, idéologiquement, est dangereux. Parce que c'est l'expression d'un projet politique qui est celui des autonomistes. Par exemple, l'appel de Pontivy qui vient de se créer, ce sont des associations qui ont fait une plateforme commune pour demander la ratification, bien sûr, de la charte des langues régionales, la réunification de la Bretagne, le développement d'une télévision bilingue, et le quatrième, c'est un parlement. C'est le projet d'autonomie basique. Le but étant clairement expliqué, de faire éclater l'État-nation. Alors, l'appel de Pontivy est intéressant, d'abord parce qu'il date quand même que d'une semaine, et qu'ensuite il rassemble les gens de résistance qui sont donc les indépendantistes d'extrême-extrême gauche, l'UDB qui se dit de gauche, le Parti breton qui est clairement lié à l'idéologie de Locarne, qui est aussi clairement de droite. Aussi bien, il va pouvoir se rajouter d'autres associations. Donc, l'appel de Pontivy qui rassemble tous ces autonomistes, ce qu'ils font finalement, c'est venir en aide à l'appel breton du 18 juin des patrons bretons pour obtenir une autonomie de la Bretagne. Les deux projets dans cette espèce de magma identitaire, le projet du patronat ultralibéral et le projet des militants indépendantistes, ils se rejoignent. C'est la caractéristique du mouvement nationaliste breton. Naru Nagwen, Breza Tepken. Ni rouge, ni blanc, breton seulement.
Ni rouge, ni blanc, breton seulement, de quelle couleur le bonnet rouge. Un reportage de Charlotte Perry. Merci à Françoise Morvan. Merci aussi à Anne Delaveau de l'INA. à lire les bouquins de Françoise Morvan, Le Monde comme si, chez Actes Sud, et Miliciens contre Maquisards, aux éditions Ouest France. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. Vous pouvez également réécouter cette émission sur là-bas.org, la-bas.org, et faire des commentaires, si vous le souhaitez, sur la page Facebook de Là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Julien Dumont et Fabrice Desmaz. Cette émission a été réalisée par Franck Adhérer et Guillaume Giraud, préparée avec Jonathan Duong et Stéphanie Fromentin. Attend, vous le savez, vos messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. On se retrouve demain à 15h pour Là-bas si j'y suis. Il est 15h et 50, bientôt 54 minutes. Vous retrouvez Hervé Pochon avec son temps de Pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de Pochon, mais ça ne va pas durer.
Oui ? Laurent, s'il vous plaît.
Elodie, je suis là.
Qu'est-ce qui se passe ?
Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ils se parlent entre eux, c'est Laurent étant le commissaire d'exposition et Elodie étant son étant à l'entrée. Ah, voilà, Laurent. Voilà, avec son toki-woki.
C'est le commissaire ?
Commissaire de l'expo.
Et Laurent comment ?
L'oiseau.
Bonjour à tous et bienvenue à la mairie de Paris où se tient cette exposition « Fusillés pour l'exemple, les fantômes de la République » en compagnie de Laurent Loiseau, commissaire de l'exposition. Mais qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire cette exposition ?
Il y a trop d'idées reçues sur les fusillés de la Grande Guerre. Tout le monde pense que les fusillés sont les mutins de 17. En réalité, les fusillés le sont majoritairement en 14 et en 15.
Et pourquoi on les a fusillés ? Parce qu'ils ne voulaient pas aller se battre ?
Parce que la violence de guerre était telle que l'armée française n'était pas préparée à cette guerre.
Mais je ne vois pas le rapport.
Personne n'imaginait une telle violence de guerre. Les soldats étaient préparés un peu comme une guerre précédente.
Et comme on dit, ils partaient la fleur au fusil, c'est ça ?
Non, ce n'est pas vrai. Personne n'est parti la fleur au fusil. Les gens étaient plutôt tristes de quitter leur champ. Ils avaient bon espoir de revenir pour les moissons et les vendanges. En réalité, la guerre s'est éternisée. Les armées étaient mal préparées à la guerre des frontières et surtout, les services de santé n'étaient pas au rendez-vous. Le taux de mortalité était gigantesque.
Mais donc, on les a fusillés parce qu'ils ne voulaient pas aller se battre.
Certains ont défailli. C'est pas qu'ils ne voulaient pas aller se battre, c'est qu'ils n'ont pas réussi à supporter cette violence de guerre qui a créé chez eux ce qu'on appelle de l'obusite, ce que les Anglais ont appelé du shell shock. Et cette sorte de sidération que l'on ressent lorsqu'on est soufflé par un obus vous désoriente à tel point que vous perdez complètement la notion du temps et de l'espace. Dans cette perspective-là, beaucoup ont été accusés de quitter le champ de bataille et ont été fusillés dans la foulée à cause des nouveaux dispositifs pour les juger. La plupart des fusillés l'ont été parce qu'ils n'avaient pas la capacité morale pour rester sur le champ de bataille.
Il y a eu combien de fusillés ?
Il y a eu environ 740 fusillés. En réalité, il y en a eu plus, puisqu'on ne compte pas les exécutions sommaires. Et on ne compte pas non plus tous les gens qui sont morts au bagne, puisque leurs peines parfois ont été commuées. Et ceux-là sont partis en Afrique du Nord, on les appelait les biribis.
Et alors, en quoi consiste cette exposition ?
Cette exposition permet de comprendre, à travers la violence de guerre et à travers l'exceptionnalité de la justice militaire, l'étrangeté du cérémonial de l'exécution, qui date du 19e siècle. Pourquoi ? Parce qu'on exécutait pour l'exemple. Depuis le début de la guerre, il fallait convaincre les soldats que rester sur le champ de bataille était un impératif. Il fallait se faire tuer sur place plutôt que de reculer.
Qu'est-ce qu'elle comprend, cette exposition ?
Elle comprend deux parties. Une partie qui est un parcours dans l'histoire, qui comprend effectivement la façon dont la justice militaire s'est mise en place, une justice d'exception. Et dans une deuxième partie, une balade autour de la mémoire, à la fois dans l'histoire de la mémoire et l'histoire de la construction de la mémoire, mais également l'interrogation que les artistes se posent, faut-il inscrire ou non les fusillés sur le monument aux morts ?
Et alors, votre opinion ?
Je n'ai pas d'opinion, il n'y a pas de bonne...
Pour un commissaire ?
il n'y a pas de bonne et mauvaise réponse. Et justement, nous prenons le citoyen par la main pour lui faire faire un parcours d'histoire.
Quels sont les artistes qui participent à cette exposition ?
De jeunes artistes extrêmement prometteurs et déjà confirmés, comme Yann Thomas ou Christian Jacquard, mais aussi des artistes qui arpentent le terrain, par exemple Laine, comme François Mahut, qui chaque année fait une moisson de fer et vient réaliser d'étonnantes sculptures. Nous en avons présenté une qui s'appelle Le Mutin.
Merci beaucoup.
Merci.
Alors François Mahut, c'est votre œuvre qui est là ?
Oui, c'est Le Mutin.
Je trouve que cette toile est absolument superbe. Vous êtes
c'est
d'accord ?
Vous qui l'avez peinte ?
À votre avis ?
Moi, je sais pas, parce que vous pourriez faire l'attaché de presse pour quelqu'un.
Mais ou... je peux faire pour François, attaché de presse, très bien. Hein, mais je peux faire attaché de presse
c'est
pour
c'est pas gentil, ça, parce qu'il était en train de parler sur France Inter, et vous, vous souhaitez qu'on parle de vous, et donc vous grillez son interview.
Je vous dis bonjour, bonjour François. Vous ne grillez rien du tout. J'embête personne.
Voilà. Alors reprenons.
Reprenons Le Mutin.
Le Mutin, donc c'est un poteau en bois,
oui.
Avec des... Un corps qui est réalisé avec des extraits d'obus, des morceaux de...
Des éclats d'obus.
Des éclats
oui,
d'obus.
Absolument, oui, qui proviennent du chemin des dames.
Parce voilà. qu'il faut le savoir, vous passez une partie de votre vie, devrais-je dire, au chemin des dames pour puiser votre inspiration.
Exactement, oui, j'y passe 2 mois de l'année, j'y vais généralement en novembre et puis en avril. En avril, bon, c'est la période où l'on commémore le déclenchement de l'offensive Nivelle, donc 16 avril. Et puis novembre aussi beaucoup, puisque c'est une période où les parcelles sont accessibles. Hein, c'est la période où on a fait l'arrachage de la betterave. Donc, comme j'ai de très bons contacts avec les agriculteurs, j'arpente leurs parcelles, quel que soit le temps d'ailleurs, sous la pluie, dans le vent, sous la neige, et puis donc à glaner ces éclats d'obus.
Je vais faire une photo de vous à côté de votre œuvre. Pour la mettre sur le site. Oui. Et si on veut en savoir plus sur vos œuvres, vous avez votre site françoismahut.com.
Un temps de pochon, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se trouve demain.
Présence 2014, Paris-Berlin. Présence, le festival de création musicale de Radio France. Pour sa 24e édition, les plus grands compositeurs des deux rives du Rhin seront à Paris. 13 concerts, 9 créations mondiales, du 13 au 25 février, avec les orchestres, le chœur et la maîtrise de Radio France.
Toutes les informations sur concert.radiofrance.fr.
Vive Paris-Berlin.
France Bleu crée l'événement à Lille.
Daniela Lombroso reçoit M. Pokora et toute la troupe du spectacle musical Robin des Bois.
Vendredi 7 février à 12h30 dans France Bleu Midi, ensemble, en direct, depuis le Furet du Nord.
France Bleu, un réseau du groupe Radio France.
Vous écoutez France Inter, il est encore 16h. Les informations, c'est avec Dominique Delarroy. Bonjour.
Bonjour. Alerte à la bombe en Corse. Les 4 lycées de Bastia ont été évacués cet après-midi. Plusieurs milliers d'élèves et les personnels ont été priés de quitter les établissements après un appel téléphonique anonyme annonçant qu'une bombe avait été déposée dans un lycée. Situation difficile au sein de Maury Ducrot à la veille d'une audience cruciale pour ses 5000 salariés devant le tribunal de commerce. Les négociations pour une reprise de l'entreprise par Arcole Industries, son principal actionnaire, sont toujours en cours et un collectif des 2210, les salariés qui font partie du plan de reprise, appelle la CFDT à accepter l'offre d'Arcole Industries alors que d'autres jugent toujours les propositions insuffisantes. La CFE-CGC a 70 ans et que veut dire ce sigle ? Pas grand-chose, sauf aux initiés, reconnaît Carole Couvert, la présidente de la centrale syndicale. Pour se donner une nouvelle dynamique, elle a donc lancé une consultation auprès des adhérents pour trouver un nouveau nom. La centrale revendique 160 000 adhérents, dont 60% sont des cadres, les autres des techniciens et des agents de maîtrise. Et CFE-CGC, ça veut dire Confédération française de l'encadrement, Confédération générale des cadres. La violence a été en partie jugulée en Centrafrique. C'est ce qu'affirme aujourd'hui l'amiral Édouard Guillot, chef d'état-major des armées françaises. 2 mois après le début de l'opération Sangaris, le désarmement a commencé, tant pour les milices chrétiennes anti-Balaka que pour la Seleka. Bangui va mieux et nous sommes sur une pente positive, déclare l'amiral lors d'une visite aux militaires, tout en soulignant la difficulté de cette mission. 1600 soldats français sont engagés en Centrafrique. Une nouvelle décapitation en Arabie Saoudite. Un condamné à mort pour meurtre, a eu la tête tranchée au sabre. Il y avait déjà eu une exécution semblable. L'an dernier, 78 condamnés à mort ont été exécutés en Arabie Saoudite, qui applique de manière stricte la charia, la loi islamique. Quatre hommes soupçonnés d'avoir volé une bague d'une valeur de 450 000 euros chez un joaillier monégasque ont été arrêtés à Paris. Après ce vol, le signalement des voleurs présumés avait été envoyé aux autres boutiques du groupe. Ils ont repéré samedi les hommes aux Galeries Lafayette. Les policiers ont notamment retrouvé sur eux les bijoux, des faux bijoux avec lesquels ils tentaient de remplacer les vrais dans les vitrines. Le cadavre d'un loup a été découvert par un chasseur sur le domaine de la commune de Col dans la Marne. Il s'agit d'un loup mâle adulte abattu par arme à feu. L'auteur du coup de feu risque une peine d'amende pour l'abattage illégal d'un animal d'espèce protégée. Une enquête est en cours.
Tous les samedis à partir de 20h, le grand rendez-vous live de France Inter, présenté par Vali.
Cette semaine dans Live Midou au studio 105, la rencontre rétro-futuriste, un producteur en vue et un songwriter d'exception, Broken Bells. The soul du spoken word d'Anthony Joseph.
He was a black whip of a woman.
Et l'insolence pop rock 50s de Bosco Del Rey.
Pour assister à l'enregistrement de l'émission, rendez-vous mercredi à partir de 18h30 devant la porte B de la Maison de Radio France ou réservez dès maintenant vos places en vous connectant sur franceinter.fr.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
France Inter,
la voix est libre.
Il est 16h04, l'heure du carrefour de l'Odéon.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à vous et merci d'être avec nous. Ça y est, c'est le jour J, ou plutôt le jour V, comme victoire, les victoires de la musique classique. 21e édition, et ça se passe ce soir à partir de 20h45 à Aix-en-Provence, en direct du Grand Théâtre de Provence. Et on célèbre l'anniversaire de l'Orchestre National de France, 80 ans au compteur. Et oui, beaucoup de fierté de la part des auditeurs, de tous les Français en général. Et puis je suis heureux de vous proposer la conclusion de la valse de Maurice Ravel, interprétée par cet orchestre que nous aimons tous. Écoutez le formidable élan de la conclusion sous la direction du maître Georges Prêtre. La valse de Maurice Ravel par l'Orchestre National de France, dirigé par Georges Prêtre. Ce soir, beaucoup d'artistes présents, vous pourrez constater évidemment et soutenir le talent de jeunes, de moins jeunes en tout cas, nommés, pas nommés, peu importe, il y a beaucoup de talent qui va se manifester aussi bien à la télévision qu'à la radio. Voici par exemple Katia Bounatichvili, et c'est une superbe jeune femme qui a un sens du romantisme jusqu'au bout des doigts, et c'est bien le moins puisqu'elle est pianiste, et elle offre par exemple dans sa discographie le deuxième concerto pour piano de Frédéric Chopin, évidemment Chopin... âgé d'une vingtaine d'années seulement, mais déjà maître de tous ses moyens, romantique lui aussi jusqu'au fond de l'âme. Et le final Allegro Vivace nous montre à la fois son sens de la danse, son sens de la musique populaire, et déjà évidemment sa très grande richesse de connaissances musicales, sa connaissance de l'écriture, et aussi bien sûr de son clavier chéri.